Je vais me permettre, avant de passer le micro, de faire une remarque. Moi, j'avais déjà lu votre travail. Et là, alors je sais pas si c'est parce que j'ai mangé des madeleines hier soir, mais genre j'ai l'émotion qui monte depuis ce matin. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais dans la manière dont vous avez présenté les choses, et après les élèves, mais même dans la manière dont vous avez présenté les choses, je sais pas si c'est parce que c'est le lien entre le français et la danse, mais bon, voilà. Je veux dire, moi, je suis extrêmement émue par tout ce que j'ai entendu et vu. Il me semble que là... Il y a quelque chose d'important à travailler et à savoir dire, mais je pense que cette question-là mérite d'être creusée. Parce que moi, ça m'a vraiment prise là, à l'estomac, depuis ce matin. Donc je pense que là, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à...
Des têtes de chapitre, dans votre présentation, il y a plein d'éléments pour une réflexion sur l'évaluation. À travers des choses très classiques, très formelles auxquelles on est habitué, d'autres beaucoup moins. Par exemple, les témoignages d'élèves, les écrits et les consignes qui sont données, raconter, expliquer, dire si vous avez aimé et pourquoi. Je crois qu'il y a à travailler là-dessus. Se poser vraiment cette question-là, qui est d'ailleurs une question méthodologique en sciences humaines. Quelle est la valeur du récit, comment on fait pour dire la vérité de ce qu'on recherche. Quelquefois, on veut analyser la présentation. Voilà, c'est une question intéressante à réfléchir quand on pense évaluation. Il y a plein d'éléments qu'on pourrait éventuellement structurer. Je ferai peut-être quelque chose autour de ça pour diffuser après. Autre thème, à mon avis, intéressant, cette fameuse recherche de l'objet frontière dont on a parlé au tout début. Comment on fait... Alors, votre question sur pluri-inter, etc., elle est autour de ça. Est-ce qu'il y a un gain à mettre en regard, en rapport, etc. Et je crois qu'il faut diversifier. D'abord, sur le plan de la recherche théorique, il n'y a pas de théorie de l'interdisciplinarité. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Ils redonnent chaque fois une définition de inter, pluri, multi, trans, etc., etc. Ça vaut le coup quand même d'avoir sa propre théorie d'eux, de se nourrir de ça, parce que réfléchir à ça, c'est vraiment très important. Et garder qu'il y a une palette. Je crois que c'est le gain en termes de savoir. Par exemple, les derniers points... Est-ce qu'on travaille sur le savoir, les connaissances, etc., ce qui est dans les programmes, ou les conditions qui font que, ce soubassement, ce déjà-là, les profondeurs ici, les conditions qui font que les élèves se mettent à travailler. Est-ce que c'est ça notre boulot, alors qu'on est fasciné par les contenus qui circulent et les enjeux? Ça fait trois entrées possibles, il y en a plein d'autres dans votre travail qui sont illustrées. L'évaluation, la problématique de cet objet frontière, cet objet partagé, que la contrainte de l'inter nous oblige à penser, y compris quand il est négatif, quand il ne sert à rien, mais pose problème. Et deuxièmement, et troisièmement, moi j'ai bien retenu, c'est que l'émotion, je crois, elle est là. On perçoit en fait qu'il y a quelque chose qui est souterrain, toutes les que vous évoquez, et derrière le vivre ensemble, la formule un peu bébête, là, dans la notion, le concept d'engagement, par exemple, qui sont des conditions préalables à ce que toute chose arrive, quoi. Et c'est ce que dit Edgar Morin, d'ailleurs. On dit, par exemple, l'éducation morale et civique, c'est quoi? Faire des leçons de morale, écrire au tableau, pourquoi pas d'ailleurs? Lire, par exemple, la Constitution, c'est aussi lire ce qu'il y a. Voilà, mais c'est sûr. Donc je pense que ces trois dimensions, elles me paraissent, et je crois que si on fait les choses intéressantes autour de ça, la refonte des curriculums, c'est pas se débarrasser des contenus, contrairement à ce que pensent quelques imbéciles, c'est en assurer l'enracinement dans ce terreau-là qui est très difficile d'accès. Celui des dispositions dont parlent les sociologues, voilà, des déterminants de l'activité dont parlent les ergonomes, enfin bon, voilà, je pense que c'est ça.
Je vous remercie pour cette présentation, j'étais vraiment ravie, parce qu'en plus j'ai trouvé des tas de choses qui me parlent, comme l'histoire du mot exil, comme ça au centre, ça me rappelle ce qu'on appelle la fresque effervescente d'une collègue du GFEN qui parlait de ça en cours d'espagnol. Enfin bref, je veux dire, la présentation, elle est trompeuse aussi, parce qu'on a l'impression qu'on peut s'approprier ça rapidement. En tout cas, moi, je me suis trouvée là comme ça à extrapoler pour dire, moi aussi je fais de l'écriture longue, mais avec des débutants en français, je veux dire, avec des arrivants. Et c'est très sympathique. Cette histoire de voir les élèves qui parlent et qui ressortent des mots de théâtre, de la concentration, de la position neutre. Je veux dire, il y a un jargon qui se... Et c'est là, pour moi, c'est inter, l'interaction à tourner. Et j'ai beaucoup aimé la manière de revenir aussi, de revenir se redérouler le film de ce qu'ils ont vécu, la manière dont vous les avez encadrés aussi pour faire ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est très bien. Bravo.
Sur s'approprier, c'est vraiment l'idée. Il se trouve que là, c'est la pratique artistique choisie, c'est la danse. Pourquoi ? Ben, parce que c'est ma passion. Voilà. Donc ça entre en ligne de compte. C'est vrai que c'est un domaine où j'ai pas de formation. J'ai construit une culture personnelle, mais ça peut être transféré avec une autre pratique artistique. C'est un projet modeste et ordinaire sur le projet annuel de français, sur la place de la danse en histoire des arts dans mon cours. Ça s'est construit petit à petit au fil des ans, très timidement au début, parce qu'au début je me suis dit, voilà, tu vas leur parler de danse, ça va mal se passer. Hein. J'ai commencé par West Side Story une année, ça s'est bien passé, j'en ai rajouté un petit peu. J'ai fait des projets avec la collaboration notamment d'Hervé Koubi plusieurs années de suite, ça a été très formateur pour moi, et à chaque fois ça marche formidablement bien. Donc c'est au fil des ans que je me suis dit, mais puisque ça marche bien, ne t'en prive pas. Et puis sur voilà, la place de la danse, ça peut être autre chose, ça peut être la sculpture, ça peut être les arts graphiques. Pourquoi moi je m'autorise à en faire plus? Parce qu'il se trouve que dans l'équipe je suis la seule à le faire. Alors je me dis, bah, après tout c'est l'année où il t'entoie qu'il travaille sur la danse, et avec les autres collègues, il travaille sur autre chose.
Merci. Je vais essayer de ne pas faire un éloge stérile, parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Non, mais je voudrais vraiment vous remercier pour beaucoup de choses. J'ai noté plein de mots, en fait, à mesure que vous parliez. Alors, j'ai noté le mot de confiance. Je crois que vous avez réussi à insuffler beaucoup de confiance chez vos élèves, et ça, déjà, c'est super. Vous avez parlé d'amateurisme. Moi, je ne l'ai pas trop vu, l'amateurisme, à vrai dire, mais je crois que vous avez fait preuve d'une humilité, en fait, exemplaire. Et voilà, vous avez parlé de projets modestes, ordinaires. Bon, voilà, encore une fois, je suis assez sceptique sur la modestie. Enfin, très modeste, mais ordinaire, je ne sais pas. Je voudrais aussi dire que c'est assez drôle. Je pense qu'on a beaucoup parlé de l'exil. Enfin, je ne sais pas, c'est... Il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui en ont parlé. Et c'est drôle parce que j'ai travaillé aussi sur cette notion. Je pense que les migrants, ça nous a beaucoup touchés. Et aussi, ça fait écho, en fait, à une expérience que j'ai eue dans ma classe de 3e. Pardon, je suis très émue, en fait. Voilà, je crois que ça s'entend. Avec donc cette volonté aussi de retravailler au cours de la conception du projet... sur une notion qu'on avait pensée, etc., puis qui finalement, ben, au gré des événements, donc je pense notamment aux attentats de novembre, ont dû être retravaillés. Donc moi, ça a été le cas également. J'ai travaillé sur les migrants, et puis en fait, ben, il y a eu le 13 novembre, et puis ben, on a retravaillé ça pour un projet effectivement transdisciplinaire avec le professeur de musique. Ça a été long. J'ai travaillé avec la prof doc alors que je l'avais pas prévu, et ça me rassure en fait de voir que ben on s'adapte, et puis c'est pas forcément facile. Ça peut effectivement faire penser qu'on est un petit peu amateur, qu'on bricole. Et en fait, au vu de votre résultat, je me dis, ben, finalement, c'est peut-être ça aussi. Voilà.
Je vais aussi éviter de l'éloge stérile pour reprendre les termes de la collègue, mais je note en première réaction. D'abord, je trouve très courageux d'être en face d'une classe de 17 garçons et 7 filles et de parler de danse. Parce que les stéréotypes sont costauds dans nos sociétés. Et malgré les danses modernes où on voit beaucoup de garçons, quand même, ça persiste. Déjà, il y a ce sexisme autour de la danse. Et en plus... l'évaluation du projet se fait au sein de la classe, vous l'avez faite au sein de la classe, mais il y a quelque chose, et je pense qu'elle explique aussi notre émotion, c'est de constater l'onde de choc que vous avez provoquée. Et quand vous dites qu'au temps de Noël, quand généralement on assiste à des dégradations et à des conduites déviantes, on va dire, vous avez réussi, et sans doute que ce n'était pas prévu dans le projet, à créer une espèce de communauté réelle. Donc l'impact est vraiment très très fort, donc je vais vous féliciter.
Voilà, c'est la succession des événements, hein. Mais oui. Sur cet événement du bal flash, quand on parle des postures des enseignants, En y réfléchissant, là, pendant ces 3 jours, on s'est dit que c'est l'établissement tout entier qui était dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que la vie scolaire a quand même accepté qu'il y a des élèves qui viennent, là, ils sont censés être en paire, mais ils partent danser avec les autres. Oui. Et je disais juste, écoute, préviens la visco qui ne te cherche pas partout. La chef d'établissement a accepté qu'on prenne 2 classes, on est là, je montre un bout de chorégraphie, après ils travaillent en binôme, on les sépare, on les remet. Franchement, il y a ces 15 jours où on aurait été bien en peine de dire exactement où se trouvait chaque élève. Donc le lâcher prise, il était chez nous, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de refaire le bal flash, c'est une collègue non danseuse. Mais je lui ai dit, j'aurais jamais proposé, mais évidemment, je suis assez folle pour ça. Voilà, on est parti.
Donc là, c'est sûr que c'est pas une ligne que vous avez pu écrire dans le projet, mais l'impact au niveau établissement est miraculeux. Oui. Et je pense que dans nos postures de personnes qui voulons amorcer et créer des projets, je pense que c'est très encourageant, parce qu'on toute cette année qui a été lourde autour de la réforme, avec des résistances très fortes, ça prouve que parfois on instaure quelque chose, on crée quelque chose qui a une dimension relative et qui prend une ampleur qui peut-être nous laisse penser que les choses peuvent faire comment dire, peuvent inviter les autres à entrer dans des processus pour lesquels ils sont pas du tout
prêts,
oui,
ou formés même parfois.
Oui, créer presque, c'est de l'ordre du désir, quoi. Montrer que les choses peuvent exister et fédérer. Voilà, je crois que c'est le mot qui me vient à l'esprit, fédérer.
Oui, je partage globalement ce qui a été dit, mais ce qui me semble peut-être, je vais peut-être le mettre en mot un peu autrement, ce qui me semble apparaître là en arrière-plan beaucoup de votre présentation et de votre projet, les deux, c'est que vous êtes en train de dire et d'affirmer qu'un enseignant, c'est d'abord un sujet humain. C'est d'abord une personne qui ose ses passions, qui ose dire vrai, qui ose dire ses émotions, qui ose dire son talent ou ses hésitations, et qui parle vrai. Et donc parce qu'il parle vrai, parce qu'il est vrai, eh bien il touche les élèves, précisément, quelque part. Voilà. Or ça, cette dimension... qu'on est des personnes, qu'on a le droit d'exister en tant que sujet, c'est quelque chose dans notre culture professionnelle qui est interdite. C'est-à-dire que quand je montrais des vidéos ou des enregistrements que je faisais de mes cours il y a bien longtemps avec mes élèves, mes collègues me disaient, mais Dominique, tu parles comme ça avec tes élèves? Mais enfin, t'es prof. Et après, ensuite, maître de conférence, tu fais tes travaux à la fac comme ça, mais enfin... Tu es maître de conférence. Autrement dit, notre identité, quelque part, a été dit dans notre culture professionnelle qu'il fallait qu'on s'efface, qu'on était au service simplement des objets enseignés, du sujet scolaire épistémique, etc., etc. Et ce qui fait... voilà. Donc il me semble que c'est ce qu'on entend, et vous l'osez, vous l'affirmez. Et donc, du coup, ça nous touche, ça fait des échos à plein de choses. Donc, du coup, c'est ça qui me semble peut-être le plus important, derrière les postures et machin et autres, cette idée d'oser exister dans sa singularité. On dit qu'il faut que les élèves existent dans leur singularité, mais il faut que les profs, ils osent leur singularité aussi. Évidemment, les contrôlants, etc., en tant qu'adultes responsables, c'est évident. Voilà. Et on a entendu l'entretien avec les élèves d'Isabelle Lemoyec et Lemarre que les élèves disaient « la maîtresse, elle a pleuré 3 fois ». Ben oui, la maîtresse, elle a pleuré 3 fois, voilà. Et donc, la maîtresse a pleuré, c'est très important pour les élèves que la maîtresse ait pleuré 3 fois. Voilà, ça c'est la première chose et sans doute la plus importante. La deuxième qui me semble revenir au travers de votre propos, c'est la notion de construire une communauté. C'est-à-dire, la classe est une communauté. C'est pas des élèves, les bons, les moyens, les faibles, etc., des garçons, des filles. C'est une communauté qui se construit par l'espace d'une année. Mais en même temps, ce que vous dites, c'est que la classe est une communauté qui s'inscrit dans une communauté plus grande, qui est celle de l'établissement, qui s'inscrit dans une communauté plus grande, puisque momentanément, il y a une communauté de danse dans la ville. Donc, quelque part, c'est cette notion de construire des individus dans des communautés. Voilà. Alors, qui me semble important depuis hier, ce qui a été dit aussi sur Toulon, c'était très, très important, cette idée de communauté construite. Et on ne peut pas construire et éduquer le vivre ensemble. Terme creux, important, mais creux. Il faut lui mettre du sens maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire construire des communautés et y réfléchir comment on va les construire. Ensuite, ce qui me paraît, et puis c'est peut-être un peu en réponse à ce que disait la collègue là, je pense que éduquer, instruire, enseigner, c'est travailler profondément, peut-être dans cette zone de savoir qu'on est en train de travailler ici, c'est travailler sur, avec et contre de l'humain. Sur, avec et contre de l'humain. Parce que quand les élèves détournent le projet pour faire entrer un terroriste, ils apportent quelque chose de ça, que l'humain, il n'est pas si magnifique que ça. Et que l'humain, il peut être aussi abominable. Et donc, quelque part, c'est le vivre ensemble, eh ben c'est une aventure rudement difficile. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire dans la nouvelle, que le vivre ensemble, c'est une aventure terrible. Et il me semble que les langages, on travaille langage artistique, le théâtre, l'écriture, etc., et dans d'autres disciplines aussi, mais là, sur ce qui nous concerne, ils sont là pour dire cet humain compliqué, mais ils sont aussi là pour réfléchir là-dessus. Et ce qui me semblait... Alors, on le voit... C'est une critique, hein ? Je peux ? On ne le voit pas suffisamment dans votre diaporama, alors sûrement dans les pratiques vous l'avez fait, mais combien ce travail du réfléchir sur avec le langage. Ce qui me frappait, puisque j'ai travaillé avec les vidéos d'Isabelle, des deux Isabelle là, c'est que dans le fond, ce que disent ces enfants de 3e et ce que disent les petits du CM1, sur les objets enseignés, sur l'écrire, le parler, la difficulté, c'est à peu près du même niveau. D'accord ? Donc ça veut dire que sur le parler sûr, la capacité à analyser ce qu'on est en train de vivre, il y en a quelques-uns qui y arrivent, hein, on doit pouvoir pousser la machine beaucoup plus loin, c'est-à-dire la dimension réflexive du langage, réflexif, l'instrument pour penser... pour avancer sur soi, sur l'autre. Ils ont beaucoup avancé sur eux-mêmes, sur l'autre, moins sur les objets. On le sent, hein. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses dans vos propos. Mais si vous faites un diaporama qui doit circuler, parce que c'est un peu le but de la formation, je pense qu'il faut aller chercher ces moments où les élèves sont en puissance et en capacité de dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, réécrire c'était quoi, transférer c'était quoi, etc. etc. Il me semble qu'il y a des choses comme ça. Voilà. Et puis, petit détail technique, pour faire parler les élèves sur leur travail, il vaut mieux une tierce personne. Parce que, dans le fond, pourquoi raconter au prof ce que le prof sait déjà ? Et donc, il vaut mieux une personne extérieure au projet, qui connaît un peu le projet. Parce que sinon, ils vont répéter ce qu'on attend qu'ils disent. Donc, prendre quelqu'un d'autre qui va les interviewer pour de vrai sur qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont appris, etc., ils vont dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses, de mon point de vue. Hein. C'est juste technique.
On suivra bien sûr les conseils. Mais on en a trouvé que les élèves, justement, étaient assez spontanés. De là à dire que je déteste, j'aime, on a trouvé qu'il y avait quand même un naturel, mais c'est vrai que peut-être qu'il se serait autorisé peut-être un peu plus de choses, ou plus. Et en effet, peut-être qu'il faudra que... Alors je ne sais pas si le diaporama doit circuler, comment il doit circuler, mais c'est vrai qu'avec les élèves, d'expliciter au plus profond les apprentissages, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser.
Et après, effectivement, sur le travail sur la langue, qu'elle soit écrite ou orale, bon, là, on présentait le projet Lettres PS, mais il y a d'autres dispositifs du cours de français, avec notamment des échanges avec une autre classe parallèle, où, bah, par exemple, la dictée concertée dans cette classe, c'est un moment extraordinaire, où vraiment, les élèves argumentent avec des termes grammaticaux. Par exemple. Il y a aussi, j'ai évoqué déjà les lettres à Raphaël, j'en ai laissé un paquet en chantier sur mon bureau en partant en vacances. Ce sont des lettres sur l'histoire des arts qui circulent entre des classes différentes. Et là aussi, ils disent sur et ils expliquent et ils explicitent.
Oui, mais encore une fois, vous avez ça dans les programmes, compétences. Ce qu'on appelle les social skills, les compétences sociales, le terme n'est pas très... Le mot compétences sociales, c'est toujours énervant, mais quand on parle de vivre ensemble, la tolérance, etc., la capacité d'engagement dans les tâches, même je suis pas bon, j'y vais, et j'apprends, j'ai envie. Tout ce qui est climat de classe, enfin, ce sont deux variables essentielles là, dans les recherches sur la réussite scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'un établissement produit la réussite? Ce sont ces deux éléments. Vous les illustrez très très bien, je pense. Après, la question, c'est comment on agit. Encore une fois, quand on a dit, par exemple, il faut lutter contre la discrimination filles-garçons, et que c'est très inscrit dans les pratiques de classe, comment on fait pour que ça soit efficace autrement qu'en faisant de temps en temps, en se disant, oui, ce sera important d'eux. Parce que ce sont des choses qui sont quasiment invisibles dans les conduites et dans les échanges sociaux. Donc, on a vu, vous l'illustrer. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Dominique, là. Les tâches, en fait, qu'est-ce qu'on leur demande quand on leur demande? Il y a dans votre site, ce que vous organisez, c'est ce que je pense que disait Dominique, des tas de moments de travail que vous ne voyez même pas comme tels, ni eux, d'ailleurs, qui sont des moments de verbalisation, d'échange. Il y a vraiment quelque chose qui est exigeant, qui est fait. Et ce serait intéressant de s'interroger. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves quand ils verbalisent, par exemple? On leur demande, est-ce que tu aimes? Alors là, c'est pas facile de répondre aux choses que j'ai bien aimées. Bon, c'est très difficile de verbaliser ça. Ça, c'est les écrits sur l'art, peut-être, qui peuvent poser. Et quand on dit raconte, explique, dis pourquoi on fait ça, on a des variantes, en fait, vraiment, là, il y a des consignes à analyser, avec, encore une fois, pour y réfléchir, les discours de référence, c'est-à-dire, au fond, je l'ai évoqué très rapidement hier soir, mais vraiment de penser aux questions qui sont posées. Et c'est pour ça que et en plus, ces pratiques discursives, elles doivent être apprises, il y a des modèles qui doivent arriver, que les élèves circulent entre eux. Et puis, il y a une deuxième idée intéressante aussi dans votre présentation, je crois, qui intéresse vraiment notre thématique, et qui est là du côté de l'objet. Au fond, quand on fait de l'éducation artistique, de l'éducation culturelle, on voit bien qu'on lutte contre ce que les sociologues appellent des dispositions, c'est-à-dire des goûts et des choix. La danse en est un très bel exemple. La place du corps, les interdits, etc., etc. J'aime pas ton truc, je connais pas, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et avec des résistances extrêmement fortes. Là, on voit les différences filles-garçons, en particulier auprès de certains publics, mais vous voulez faire danser même des étudiants ou des adultes, vous allez retrouver ça. Donc la question qui est intéressante pour les didacticiens, c'est comment on descend à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait faire, comment on organise les choses. Or, il me semble que vous l'illustrez à deux exemples par un bel exemple de ce que j'appelle, moi, des objets culturels de passage, de transition. Quand les élèves disent la danse, c'est pas mon truc, ils voient Béjart, ils voient des trucs avec des tutus et des machins, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc pour les Parisiens, voilà. Ils vont passer par le haka, ils vont passer par le flash dance, enfin peu importe. C'est les pratiques sociales qui, à mon avis, alors, toujours, c'est comme, par exemple, quand on entre dans la poésie par le rap ou par le slam. C'est négativement, ce que dit Finkielkraut, c'est « Ah, vous faites de la démagogie ». En même temps, on doit penser, quel est, par exemple, le film qu'on va montrer aux élèves qui leur permet de comprendre ce que c'est que l'opéra? Voilà. Quelle est la musique classique, hyper classique? Je vais leur faire entrer dans la musique médiévale. Quelle est la musique? Voilà, c'est le travail que font, par exemple, les gens qui sont dans des radios grand public et qui font qui présentent de la musique classique, etc. Et là, je pense que vous trouvez et vous exploitez des pratiques sociales qui sont, alors là, on retrouve l'objet frontière de la collègue, enfin, qui sont là des pratiques frontières, des zones dans lesquelles les gens vont se rencontrer. Je m'y reconnais assez pour y rentrer. En dansant, au fond, je comprends ce que c'est que la danse. Et avec une très belle chose, parce que ce sont des espaces communs entre des danses spectacles, la tradition occidentale, on va à la maison de la danse ici pour voir des shows très sophistiqués, mais on n'est pas dans la salle. Et puis des danses publiques, enfin le bal populaire, la danse populaire, la danse qu'on a un peu oubliée, dont qu'on ne voit pas. Et cet espace-là, franchement, là, pour l'historienne de la danse ou l'anthropologue de la danse aurait des choses à dire sur cet espace-là. Et vous trouvez, vous l'illustrez très bien, les deux exemples, ces espaces qui font transition entre le monde culturel de la danse auquel tu penses et auquel nous pensons tous. Mais on va retrouver ça quand on fait un cours de littérature. C'est la même chose d'ailleurs quand on fait de la science. C'est-à-dire, au fond, quand je veux faire un cours de bio avec des quatrièmes, je parle de choses que je ne connais pas, mais j'essaye de trouver quelque chose qui soit à la fois très proche de ce qu'est la science, avec toute sa complexité, et puis qu'il soit accessible, intéressant, etc. Et je pense que vraiment, notre boulot de professionnel, de la médiation, du passage de frontières culturelles, c'est encore en deçà que d'apprendre que de l'instruction. Là, on est vraiment dans l'éducation, et cette éducation, c'est l'ouverture à autre chose. Et c'est pas superficiel, c'est pas de l'information. Vous trouvez ces espaces frontières. C'est la même chose, par exemple, quand on veut travailler sur le romantisme. Qu'est-ce que je vais, peut-être que ça va passer. Par exemple, je sais pas si on veut travailler sur les pics, on va peut-être commencer par regarder un gros film. On va regarder, je sais pas, Zelba, là, une série, par exemple, mais qui va permettre d'entrer. Et après, c'est évidemment de pas tomber dans la démagogie, c'est-à-dire de dire, ouais, tu vois. Et ça forme une question qu'on partage avec vous. Comment on fait, et c'est sans concession, quoi. Ça pose vraiment le coup.
Alors, dans le Balfla, justement, il y avait Béjart. C'est une discussion qu'on avait eue avec la collègue qui avait lancé On fait un bal flash. Sa première idée, c'était « Muriel, tu nous fabriques une chorégraphie, etc. » Donc là, j'ai dit « Un, je ne me sens pas. » Et puis deux, quand même, dans le bal flash, il y a Béjart, il y a Preljocage, il y a Thierry Malandin, il y a Jean-Christophe Maillot, il y a Alvin Nicolaïs. Et du coup, là, quand on... Mais ça aussi, c'était totalement... non structuré, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on a transmis cette chorégraphie, une fois j'ai des élèves, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas, il y en a que j'ai vu deux fois, il y en a que j'ai vu une fois, mais en montrant une figure, ben, sur les chorégraphes que je connaissais mieux, j'ai expliqué en même temps un petit peu l'histoire, ce qu'il avait fait, où il se situait. Et j'avais beaucoup tenu à ce qu'on garde justement Béjart, etc.
Oui, merci. Donc j'interviens en tant que chef d'établissement et... Je reprendrai de toute façon cette remarque dans mon intervention après, mais vous dites que votre chef d'établissement est souvent dans le contrôle, elle n'est pas tant que ça parce qu'elle vous laisse travailler à l'envie. Vous avez eu envie de travailler avec elle, toutes les deux, vous êtes allées la voir pour lui proposer votre projet. Et ça, je pense que quand on laisse faire les enseignants comme ça, ça marche. J'en ai discuté avec les collègues au fond de la salle. Je crois qu'imposer ne sert à rien. Donc, je pense qu'il y a la posture du chef d'établissement aussi qui est importante. Et puis, votre travail. Et j'en viens à une question au niveau de l'organisation de votre concertation, puisque c'est une grande question dans les établissements. Combien de temps allez-vous nous laisser? Est-ce que vous pouvez nous dire... comment vous vous êtes organisé? Est-ce que ça vous avait pris énormément de temps? Je pense que oui, mais voilà, concrètement.
Donc, discussion autour de la machine à café en juin. On se pose une heure ou deux pour dessiner le projet. Après, sur des temps précis et identifiables, je suis allée dans la classe de ma collègue. Donc là, on est dans la co-intervention pendant l'atelier avec Aurore en début de projet. Et en théorie, j'avais une autre classe. Et là, le chef d'établissement a libéré ma classe, a dit « PEAC, je vous libère ». Il y avait une heure où ma collègue avait les élèves en danse et moi, une semaine sur deux, j'avais un trou. Donc je crois qu'à deux reprises sur ce créneau-là, je suis allée les voir. Voilà, non rémunéré, si c'est la question. Oui, et puis le temps d'évaluation, la conjointe des élèves, ça aussi, ça s'est fait en plus sur un trou commun aux élèves et à nous deux. C'est une heure de vie de classe, mais qu'on n'a pas non plus fait rémunérer si c'est dans les questions. Bon, après, l'analyse du projet, le retour réflexif sur le projet, c'est moins pour le cours lui-même que parce qu'on était entré dans une logique de partage.
D'accord. Non, la question de la rémunération n'était pas dans ma question, c'était dans l'organisation. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau de la vie scolaire. Vous disiez que c'est un terme creux, et je vous rejoins bien, hein, le vivre ensemble, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ce genre de projet est très intéressant en termes de retombées sur la vie de l'établissement. Et c'est quelque chose, je crois beaucoup aussi, et qui peuvent s'inscrire dans les projets de vie scolaire aussi, les temps forts comme ça d'établissement. Donc, voilà, c'était mon regard. Et au-delà de tout ça, pour arriver aussi, et je rejoins M. Chaban et ce qui a été dit hier, et puis, de toute façon, je vais en parler après, c'est en termes de parcours citoyen aussi. Je crois que c'est une action qui s'intègre complètement dans ce parcours-là et qu'on est là dans les valeurs, dans l'éthique, dans la motivation première.
Dans le respect aussi, on a des élèves handicapés dans l'établissement qui ont dansé le bal flash, hein, avec leurs moyens, mais ils ont dansé au milieu des autres.
Le terme de communauté scolaire prend son sens là, ouais, c'est vrai.
Donc le projet, c'est de recommencer en augmentant l'effectif des danseurs en ouverture de notre festival théâtre pour cette année. Et pour l'an prochain, c'est de fabriquer notre bal flash avec l'aide d'un danseur de Monaco. Alors là aussi, à coût zéro, c'est-à-dire qu'il est en reconversion. Et mon interlocutrice au ballet de Monaco, quand elle a vu ce qu'on avait fait, allez, je vous l'envoie.
Je vais juste continuer par rapport à je vous découvre un petit peu. Et puis j'ai l'impression qu'on peut aller plus loin avec le livre « L'éducation artistique pour tous » dont vous êtes co-auteur, me semble-t-il, Madame Lacour. Donc voilà, je pense que là on a un document qui peut nous permettre d'aller plus loin. Et puis j'ai envie de dire que ce type de projet, vous renvoyez à la vie scolaire. J'ai le sentiment qu'il peut aussi nous accompagner vers cette difficulté, enfin que je trouve que l'on rencontre dans les établissements, surtout au collège, d'élèves qui viennent prendre des cours et qui sont avec une impatience extraordinaire de quitter le collège. C'est-à-dire, quand est-ce que je quitte ? Enfin voilà, ils sont un petit peu dans cette idée qu'ils viennent prendre des cours, puis voilà, il se passe rien d'autre au collège, et on a quand même quelques élèves, l'absentéisme, l'absence de désir de venir apprendre, peut-être qu'à travers des actions, enfin puis les EPI, on va pallier un petit peu à cette difficulté que beaucoup de nos élèves rencontrent, me semble-t-il.
Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au vécu, ce que vivent les élèves, parce que souvent je demande aux élèves, en fin de troisième, finalement pour toi le collège c'est, ou tu me le dessines, et souvent ils dessinent une prison, et là ça fait un peu mal.
Alors je voulais juste, c'était plus que des questions, des remarques. Et la première chose, c'est que votre projet met en avant... Alors, je ne connaissais pas votre bibliographie, mais d'un coup, tout s'éclaire. Parce que je vous disais, voilà un projet qui nous montre qu'on peut éduquer par l'art et éduquer à l'art. Bon, je renvoie aux éditions L'Harmattan, éducation artistique pour tous. Je pense que ça doit être développé, je ne connais pas, je viens de découvrir. Parce que c'est vraiment, là on a vraiment, voilà, c'est au centre, la pratique artistique à travers les deux disciplines est au centre, et on voit comment par l'intervention d'un danseur, et puis ce travail que vous avez fait avec le bal flash, etc. Bon, point de suspension, je vous renvoie à la lecture parce que je pense que je serai beaucoup moins précis que ce que vous avez pu faire. Une autre chose que il me semble, qu'on voit, et l'émotion des collègues ici en a été, c'est la bienveillance dont vous faites preuve à l'égard des élèves. Et c'est vrai que ce que disait Madame Dominique Buchon tout à l'heure, on est des profs, on est vivants, on est humains, mais on a surtout aussi un devoir de bienveillance à l'égard de tous ces jeunes-là. Je le rappelle parce que parfois, on se rend compte que c'est sur ce curseur-là qu'un projet peut fonctionner ou ne pas fonctionner. En tout cas, ce qui m'a été donné de voir dans les passages que j'ai faits dans des établissements. Et aussi, quelque chose qui m'intéresse, et parce qu'on voit vraiment comment ça évolue, c'est que quand vous arrivez avec un projet, vous le présentez aux jeunes, mais il n'est pas inscrit définitivement dans le marbre. C'est-à-dire que chaque proposition des élèves est directement intégrée, reprise par l'équipe, de façon à créer justement... On crée une communauté quand d'un seul coup tout le monde se sent partie prenante au même niveau que les autres dans le projet. Le projet, il est central, il y a cette bienveillance et il y a cette possibilité de le faire tous évoluer dans le sens où on veut. Moi, c'est ce qui me touche dans le projet que vous avez développé, c'est cette capacité, on propose quelque chose et tout le monde rentre et tout le monde a sa voix au même titre que les enseignants. Je suis peut-être un élève, mais l'enseignant ne se cache pas derrière sa posture d'enseignant pour dire voilà, je vous l'impose. On s'écoute, il y a un mot de lâcher prise, mais finalement c'est peut-être là aussi, quand on cherche par l'entrée de l'art dans l'école, dans nos pratiques, c'est aussi cette capacité qu'on a à se dire un peu comme Christophe Colomb, d'accord ? On va aller en Inde. Ben tant pis, on est allé aux États-Unis, mais c'est beau les États-Unis, quoi. Voilà.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'il n'a rien de démagogique, vraiment rien. Je suis formatrice aussi et j'ai fait les formations dans les établissements. sur la réforme du collège, et on l'a entendu un bon nombre de fois, ça, hein, en disant que les EPI, c'était démagogique, que les disciplines allaient y perdre leur âme, etc. Et la preuve en est, ce que vous venez de présenter, c'est vraiment un travail sur la sémiotique, qui est très important, moi, je trouve. Transposer, faire dialoguer les langages, les arts, c'est vraiment s'interroger sur la question du signifiant et du signifié. Et ça me paraît essentiel par rapport aux élèves, et ne pas se contenter du dire et de l'écrire, mais aussi du faire. C'est-à-dire que on va transposer, là moi j'ai beaucoup aimé la diapo sur les verbes d'action qu'on va transposer en gestes, et j'enseigne aussi le théâtre. Ça me paraît essentiel, ce que je vois, ce que je fais, ça correspond à quoi, sur ce que je comprends ou ce que les autres vont comprendre. Et là on est sur l'analyse de spectacle, vous l'avez fait aussi, hein, l'analyse du sens des gestes, des postures, mais aussi les gestes qu'on fait en société, qui peuvent être mal interprétés, qui parfois voilà vont nuire. Et on est aussi sur alors ce sont des troisièmes, hein, c'est ça, voilà. C'est aussi ce qu'on va développer en lycée avec toutes les analyses de textes, d'images. Donc ça me paraît vraiment très ambitieux et très important. C'est aussi, et ça c'est mon deuxième point, une entrée pour tous les élèves et pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous en avez parlé. C'est mettre à leur portée des savoirs, des connaissances, et puis c'est surtout une entrée par le plaisir. Et ça, c'est sûr que pour nos élèves, c'est très très fort et très important. Voilà.
Peut-être pour répondre aux deux, j'ai la réputation d'être un professeur tellement exigeant que l'élève avec son PPS et son ordinateur, là, la maman au début de l'année était allée voir la principale en disant non, lui avec Madame Lacour, il va jamais s'en sortir, faut le changer de classe. Et sur les acquis au lycée, j'ai enseigné au lycée avant d'arriver dans cet établissement, donc j'ai toujours en préoccupation ce que je sais qui résiste au lycée, et notamment envoyer des élèves qui, si possible, fassent autre chose en commentaire composé, que soit un catalogue de descriptions de figures de style et de faits de langue, soit un bavardage vague et creux autour du texte. Et là, dans cette classe faible, Paul Éluard, Liberté, je donne le texte, alors toujours, enfin souvent chez moi, c'est entré par la mise en voix chorale. Et parfois en plus en espace, mais là c'était à la table. Et tout de suite ils disent, on dirait une prière. Pourquoi ça ressemble à une prière? On parle de forme incantatoire et on analyse l'anaphore. On est parti de l'effet produit, j'ai donné une figure de style, et en plus, maintenant, le mot anaphore, ils le connaissent, alors qu'ils sont faibles. Voilà, pour donner un exemple d'acquis concret, précis, par rapport à nos programmes aussi.
Moi, je voudrais juste faire une remarque, puis éventuellement vous apporter dans les discussions que vous pouvez avoir avec des collègues un peu réticents face à des projets ou des projets de projets, quelques arguments. Il a été dit plusieurs fois, et c'est très très sensible dans ce projet-là, qu'un projet évolue forcément en cours de route. On en a parlé dans l'atelier où je suis. Donc il ne faut pas partir de l'idée que le projet va être ficelé, bouclé dès le départ, même éventuellement par plusieurs enseignants, mais en tout cas il n'est pas bouclé, il ne va pas être géré avec un logiciel comme il peut en exister sur la gestion de projet, ça c'est absolument hors de question, ça ne se passera pas comme ça. Et si vous voulez, ce à quoi ça renvoie, c'est une opposition qui est faite depuis longtemps, un argument d'autorité, ça peut servir quelquefois dans la discussion, vous pouvez renvoyer à Lévi-Strauss sur le bricolage. On évoquait ça hier soir, hein, et l'opposition entre le bricoleur et l'ingénieur. L'enseignant, nous sommes tous des savants dans notre domaine, dans notre discipline, nous sommes tous des ingénieurs, certains disent même ingénieur de l'apprentissage, ça c'est peut-être un petit peu plus délicat. Donc dans un certain aspect, nous faisons preuve de connaissances évoluées que nous allons aider les élèves petit à petit à acquérir, mais dans le même temps, nous sommes des bricoleurs, au sens où Lévi-Strauss le développe, c'est-à-dire que nous avons, c'est dans la pensée sauvage, et ça date de 1962, j'ai vérifié tout à l'heure, donc ça date pas d'aujourd'hui, et les discussions se sont beaucoup développées à partir de ça. Bricolage au sens où on utilise des choses qui sont là, qu'on a sous la main, qui n'ont pas forcément été imaginées pour fonctionner ensemble, par exemple l'EPS et le français, l'EPS et les lettres. A priori, ça n'a pas été imaginé pour fonctionner ensemble. Et finalement, on finit par en faire quelque chose ensemble. Et on utilise aussi tout cela en fonction de la situation, c'est-à-dire de ce que l'on a, des élèves comme ils sont, des conditions de travail comme ils sont, dans le collège où on est, ou dans l'école primaire où l'on est, etc., etc. Donc ça, il me semblait intéressant, si vous voulez, d'avoir des éléments de réflexion à ce sujet.
Bonjour. Ce qui me paraît, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est la porte de la création, d'ouvrir aux élèves vraiment la possibilité d'être créateurs. Et c'est ça qui me semble être vraiment au cœur de ce type de projet. Et je me pose toujours la question, comment on leur laisse la place, comment on leur donne les outils pour qu'ils s'en emparent, puisqu'ils ne sont pas experts, ils ne sont pas... Enfin, voilà. Et comment on fait pour qu'ils ne soient pas intimidés, on va dire, par les outils? Parce que ça... Enfin, je veux dire, moi, je suis en art plastique, ils sont très vite... je ne sais pas faire, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Enfin, c'est pareil, je ne sais pas danser, je ne sais pas... Enfin, voilà. Donc, c'est cette bascule à un moment donné qui fait qu'on arrive à les convaincre qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent être force de proposition dans un projet créatif. Et à mon avis, c'est ce passage-là qui est très délicat, notamment avec ces classes-là, 4e, 3e, avec l'image de soi et tout ce qu'on sait de difficultés par rapport à l'adolescence.
Juste pour essayer de répondre, il faut être très à l'écoute et regarder ce qui se passe et prendre ce qu'il y a dans les élèves. Je prends l'exemple du haka, ça part d'un élève, et en fait il a failli être puni parce qu'il voulait faire le haka dans l'établissement. Donc il me dit, c'est parti d'une bêtise où j'ai failli me faire punir, et on arrive à faire une chorégraphie collective, toute la classe. J'ai dit, oui, mais là, tu l'as fait au bon endroit, au bon moment, et donc il y a quelque chose qui a marché. Mais du coup, voilà, c'est de partir, de oser, en fait, à un moment donné, s'effacer un peu, dire, il y a un élève, il est en train de faire un geste AK, il a failli se faire punir avant, allez, on va y aller tous ensemble. Mais je pense qu'il faut avoir confiance en nos élèves, ils ont plein de ressources. Il faut s'effacer un peu, les écouter, et ça donne beaucoup d'idées.
Florence ne vous dit pas que aussi les élèves se sont réappropriés les figures du Balflash, donc les figures d'Alvin Nicolaïs, de Maurice Béjart, etc. Et ils les ont réutilisées, ils les ont recomposées autrement dans leur chorégraphie collective. Donc nous, on leur a transmis des figures, et ils se sont emparés de ces figures, ils les ont recomposées.
Alors, pour ces figures, ils ont fait un choix. Je pense que l'élève est motivé quand il a le choix. Et dans le Balflash, donc c'était chacun prend la figure qu'il a, voilà, celle qui fait résonance, qui fait écho. Donc déjà choisir, c'est un moyen qui permet aussi à l'élève d'être motivé.
Oui, moi je voudrais revenir sur la place du corps dans notre atelier. On a beaucoup parlé de la place du corps à l'école et comment la pratique artistique redonnait une place au corps. Le corps des élèves à l'école, il est nié, il est contraint, à part en maternelle, mais ça commence dès le CP, c'est « bouge pas, tais-toi, écoute ». C'est insupportable, c'est invivable, un enfant mais un adulte, c'est la même chose pour un adulte, ne peut pas rester comme ça. Donc ce corps nié, bien il s'exprime. Et il s'exprime par la violence. C'est-à-dire que si on ne donne pas la parole aux élèves ou si on ne les laisse pas bouger, eh bien il s'exprime contre nous. Et la force de ces projets comme le vôtre, c'est de redonner une place au corps et d'inverser complètement les codes. C'est-à-dire que l'espace, toute la négociation que vous évoquez avec votre chef d'établissement, c'est que quand même l'espace du collège, il faut qu'il soit calme et tranquille. Et là, il y a une prise de risque réelle à autoriser. Or, que se passe-t-il? Il y a une inversion, c'est-à-dire que l'espace devient, on le réoccupe autrement. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le duo, calme, bruit, silence, parole. C'est la même chose quand vous évoquez les mises en voix, etc. C'est-à-dire tout ce qui redonne une place au corps, c'est une façon de reconquérir l'espace et particulièrement importante dans les établissements où les élèves ont pris le pouvoir sur l'espace contre nous. Et vraiment, j'ai pu accompagner des projets de reconquête, alors on dit de vivre ensemble, etc. Mais ça passait par, puisque le corps et la voix des élèves s'expriment contre nous, contre les autres, par la violence, eh bien, réinvestissons autrement par des pratiques artistiques. Et c'est l'art qui donne, enfin, qui est un, l'art est un excellent vecteur pour résoudre ces problèmes. Donc il y a un vrai enjeu de citoyenneté, et ce ne sont pas des mots, c'est pas un mot creux, vivre ensemble, c'est cette reconquête. Ce que, vraiment, vous le décrivez parfaitement. Alors votre projet, par d'autres côtés, bouscule aussi d'autres codes, donc il y a ces codes-là, mais moi je suis... Ça, c'est un de mes dadas, bien sûr, mais il bouscule aussi certains codes, c'est-à-dire, et ça, je vous remercie pour ça, c'est éloge du bidouillage, éloge du bricolage, éloge de l'improvisation, c'est-à-dire que pour conduire un projet, il faut être très à l'aise. On peut contrôler, planifier, etc., oui, bien entendu, mais on peut aussi faire tous ces ajustements, pour employer un mot propre, ajustement, ça fait chic, mais bricolage et bidouillage pour résoudre toutes les difficultés. Et merci de nous dire que ça aussi c'est possible et qu'on balaie tout le champ.